Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAI l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Maintenant, place à l'actualité préparée par Fernando Farias. Les titres. Un tribunal demande de renforcer la sécurité de la vice-présidente Cristina Kirchner en raison d'une nouvelle menace de mort. Le ministre de l'économie a rencontré à Washington la directrice du Fonds monétaire international. Début du procès contre un tortionnaire de la dictature argentine, extradé depuis la France. Brésil, le président Jair Bolsonaro annonce qu'il se retirera de la vie politique s'il perd les élections d'octobre. Le Chili a commémoré le 49e anniversaire du coup d'État de 1973. Moins de deux semaines après avoir été victime d'une tentative d'assassinat, la vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner a reçu une menace de mort par un appel téléphonique anonyme. L'enregistrement sonore, disent les sources, est celui d'une femme qui a appelé le 911 dans la ville de La Plata et elle a dit qu'elle allait tuer l'ancienne présidente. En conséquence, un renforcement de la sécurité de Fernández de Kirchner et de sa famille a été ordonné. Dans le cas de la tentative d'assassinat du 1er septembre, le tribunal a révélé que des preuves d'un plan ont été trouvées sur le téléphone de Brenda Uliarte, la petite amie du principal suspect de l'attaque, Fernando Sabag Montiel, qui, comme son partenaire, reste en détention. Le téléphone portable contiendrait également des preuves de précédentes tentatives de meurtre sur la vice-présidente. Sabag Montiel est accusé d'avoir pointé un revolver à quelques centimètres de la tête de Cristina Kirchner alors qu'elle saluait des partisans devant son domicile de Buenos Aires. Une troisième suspecte a été arrêtée pour la tentative d'assassinat, Agustina Díaz, 21 ans, liée à Brenda Uliarte. Selon ce qui était révélé, Díaz aurait participé à la planification de l'attaque et dans une communication, elle reproche à son ami que Sabag Montiel ait manqué le tir. Cette semaine, on a appris que les jeunes liés à des groupuscules nazis avaient déjà considéré de tirer sur Madame Fernández de Kirchner et qu'ils avaient même envisagé de louer un appartement en face de chez elle pour planifier l'attentat. Le président Alberto Fernández a rencontré mercredi le ministre de l'économie Sergio Massa à son retour des États-Unis pour être informé sur le voyage et la réunion avec la directrice du FMI, Kristalina Georgieva. Au cours de sa visite à Washington, le ministre a également rencontré des responsables de la Banque interaméricaine de développement et de la Banque mondiale. Ces institutions ont accordé des prêts de plus de 5 milliards de dollars à l'Argentine. Kristalina Georgieva, directrice du Fonds monétaire international, a souligné l'engagement de Buenos Aires à atteindre les objectifs du programme signé en mars de cette année, en référence à l'accord de remboursement d'une dette de 44 milliards de dollars contractée par le gouvernement libéral de Mauricio Macri en 2018. La directrice du fonds a également déclaré dans un communiqué « J'ai félicité le ministre Massa pour sa nomination et pour les mesures énergiques prises pour stabiliser les marchés et inverser un scénario hautement volatile. » L'ancien officier de police argentin Mario Sandoval, accusé de crimes contre l'humanité commis pendant la dernière dictature civile militaire de 1976 à 1983 et extradé de France fin 2019, est jugé à partir de mercredi pour la disparition de l'étudiant et jeune militant péroniste Hernán Abriata pendant le régime de facto. Établi en France, le 31 août 2018, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, avait signé le décret accordant son extradition. Pendant la dictature, Sandoval, surnommé Churrasco, était inspecteur dans la police fédérale, servait dans la surintendance fédérale de sécurité et était membre actif de la répression depuis l'école mécanique de la marine, l'un des principaux centres de torture de l'époque, selon l'acte d'accusation. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro a révélé qu'il envisageait de se retirer de la vie politique s'il n'était pas réélu lors des élections d'octobre. Dans une interview, il a déclaré « À mon âge, 67 ans, je n'ai plus rien à faire ici sur Terre si mon temps en politique se termine le 31 décembre de cette année. » Il a ajouté « Si c'est la volonté de Dieu, je vais continuer. Sinon, je passerai l'écharpe au nouveau président. » Les derniers sondages donnent Bolsonaro avec 34% des voix, soit 11 points de moins que son principal rival, l'ancien président Lula da Silva. Le premier tour des élections aura lieu le 2 octobre et, si aucun candidat n'obtient au moins 50% des voix, il y aura un second tour le 30 octobre. Le 11 septembre, cela a fait 49 ans du coup d'État au Chili contre le président Salvador Allende, mort le même jour. Des milliers de personnes ont manifesté dimanche dans la capitale Santiago en hommage au leader socialiste et en répudiation de la dictature dirigée par Augusto Pinochet pendant 17 ans. Dans le cadre de cet anniversaire, le président Gabriel Boric a fait l'éloge du défunt leader et a annoncé un plan de recherche des plus de 1000 personnes qui ont disparu sous le régime militaire. Face aux divisions, face aux problèmes de la société, nous répondrons avec plus de démocratie et jamais avec moins, a-t-il déclaré. Et il a ajouté, c'est précisément la leçon que nous a laissée le président Salvador Allende. Voici un rapport, quelques mois après le coup d'État, sorti des archives de l'INA, et le témoignage de Michel Blin, un breton qui a assisté à l'événement en première ligne.
Mort dans le palais de la Moneda, que les quatre putschistes en chef ont fait bombarder. L'armée a basculé après 3 mois de crise, au cours desquels le gouvernement d'unité populaire, incapable d'imposer une politique unitaire, avait assisté à la dégradation des rapports entre les deux blocs de la société chilienne, celui des nantis et celui des pauvres, des exploités. Le 11 septembre au matin, le Chili a de nouveaux maîtres. Des maîtres qui ont décidé de renverser par la force un gouvernement légal. C'est le coup d'État. Une junte de généraux est au pouvoir. 4 hommes la composent. Le général Pinochet, armée de terre. Le général Lee, aviation. L'amiral Toribio Merino, marine. Et Carlos Mendoza, général des carabiniers, le 6e de la hiérarchie, ses supérieurs ne s'étant pas associés au coup de force. Et bien vite, le monde étonné, puis consterné, va constater que la junte a décidé de gouverner par la terreur. Nul ne dira combien de personnes sont mortes pendant les premiers jours du putsch, mais, jour après jour, les témoignages directs et indirects laisseront apparaître la sévérité de la répression. Les militants de l'unité populaire, les sympathisants, les libéraux sont pourchassés, déportés ou exécutés. Le général Pinochet dira « On a beaucoup exagéré le nombre des victimes. Tout au plus, il y en a 200. » C'est un chiffre en deçà de la réalité. Et bientôt la junte va reprocher à la presse internationale d'exagérer les faits. Pour elle, le Chili est entré dans la voie de la restauration. Selon ses propres termes, elle extirpe le marxisme du Chili. Certains de ses leaders avouera toutefois que la tâche est impossible, mais il faudrait tuer la moitié de la population du Chili. Quant à la résistance au nouveau régime, elle est faible, difficile. Elle trouvera un souffle nouveau avec la mort de Pablo Neruda, le poète. Pour ses obsèques, 200 personnes suivent son cercueil en chantant l'international. Dans le même temps, des milliers de suspects sont entassés au stade national. Aujourd'hui, le stade est vide. On y rejoue au football, mais les footballeurs exercent leur talent devant des banquettes vides. Les Chiliens ne peuvent chasser de leur esprit les images de septembre.
Ce 11 septembre représente pour certains une triste date anniversaire, celle du coup d'État qui instaura la dictature d'Augusto Pinochet au Chili en 1973. Un événement auquel a assisté en première ligne le costa-ricain Michel Blin, événement qui l'a marqué à vie. Vous voyez ce reportage de Fabrice Leroy et de Vincent Barthes.
Des scènes de guerre autour du palais de la Moneda, siège de la présidence au Chili. Nous sommes le 11 septembre 1973. Élu démocratiquement 3 ans plus tôt, le gouvernement du socialiste Salvador Allende est renversé par un coup d'État militaire. Avec la bienveillance des États-Unis, le général Augusto Pinochet prend le pouvoir, une dictature qui durera jusqu'en 1990. Ce moment historique, Michel Blin l'a vécu de très près. Alors étudiant en agronomie, il vient d'arriver au Chili. Depuis son hôtel, il assiste à l'attaque sur la Moneda avant d'être pris dans le tourbillon.
2 jours après, l'armée ou la Guardia Civil, enfin les Pacos, ont été à l'hôtel et ont perquisitionné, et ont fait prisonnier avec d'autres hommes, un Péruvien, etc. Donc en gros, j'ai passé une demi-journée au commissariat, les mains sur le dos, les mains en l'air plutôt, au commissariat, puis après au stade national pendant 15 jours.
15 jours dans l'incertitude au stade national de Santiago où transiteront des dizaines de milliers de prisonniers. Il est finalement libéré grâce à la Croix-Rouge internationale, sans que personne ne l'informe des raisons de son arrestation.
Les étrangers, moi j'étais étranger, je ne me suis pas mêlé à la politique chilienne à l'époque, hein. Mais les étrangers étaient forcément soit des guerrilleros, soit un danger pour la cohésion sociale du Chili, quoi.
Cela lui vaudra d'être reconnu en 2011 comme victime de violation des droits de l'homme, en même temps que 10 000 autres prisonniers. À 70 ans passés, il continue de militer au travers de l'Association des anciens prisonniers politiques chiliens en France, un acte essentiel à l'heure où le Chili est divisé sur son histoire.
Dans la société chilienne, il y a plusieurs opinions. Hein. Il y a peut-être les descendants, les petits-enfants de militants de cette époque qui manifestent actuellement la révolte, hein, qui est connue actuellement à Santiago, et qui affichent des portraits d'Allende, et qui reprennent des revendications d'Allende, ce qui est curieux, la nationalisation du cuivre, etc. Mais il y a toute une partie qui nie les exactions, enfin la dictature. Ils disent que la dictature était nécessaire pour retirer le cancer marxiste à l'époque.
Une autre époque que Michel Blin ne compte pas laisser tomber dans les oubliettes de l'histoire. Lui, elle l'aura marqué à vie.
Fais-tu passer, chien de vie, chien de vie. Moi qui n'avais rien demandé, oh, chien de vie, chien de vie, chien de vie. Mais par où me fais-tu passer, chien de vie, chien de vie, chien de vie. Moi qui n'avais rien demandé, comme s'il fallait tout oublier.
Doan est un jeune Français installé en Patagonie andine, plus exactement dans la région de Lago Puelo, une localité argentine située dans le département de Cuchamén, dans la province de Chubut, 1700 km au sud-ouest de la ville de Buenos Aires. Dessinateur et auteur de BD, il nous parle de son parcours et de son amour pour le dessin.
Celle des autres, celle du monde, qui finiront par exploser. Ça n'est qu'une question de seconde, et donc dans lequel on est placé. Hein, chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie.
Je suis Toine. Je suis un Français expatrié en Patagonie et ça fait tout juste 7 ans que j'habite en Argentine. Ici, en Patagonie, c'est la rencontre de ma copine en 2015, pendant que je voyageais dans le nord du pays, vers Salta. On s'est rencontrés, on a voyagé ensemble et puis voilà. Après, elle est venue en France, je lui ai fait visiter la France, elle est tombée enceinte et on a choisi l'Argentine pour élever nos enfants, parce que maintenant on en a deux. Et puis c'est pas si mal finalement l'Argentine. J'avais déjà fait quelques voyages en Amérique du Sud, mais je m'imaginais pas m'installer comme ça définitivement. Et ici j'ai retrouvé un peu les racines européennes, évidemment, et je m'y suis plu. Mais après, voilà, c'est pas un projet mûrement réfléchi, c'est arrivé comme ça. On va dire que j'ai presque pas eu le choix, mais bon, ça tombe bien. La Patagonie, c'est sympa pour vivre. Et puis, pour élever des enfants, c'est quand même top. On est loin de la pollution, loin des soucis aussi administratifs en France, loin de beaucoup de choses qui m'embêtaient un peu. Et voilà, ça permet de vivre quand même avec pas mal de liberté. Quand je suis arrivé ici, c'était le rêve américain. C'était voilà, des ruisseaux d'eau pure, des forêts immenses, la montagne, l'air frais. On peut penser aux Alpes. Il y a les clichés, les rêves de gamins qui arrivent de construire sa cabane et voilà, d'être autonome et de vivre loin de la civilisation. Puis après, bon, avec le temps, on se fatigue un peu, on sort un petit peu à la réalité. Puis la civilisation qui arrive aussi à fond la caisse. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme il y a 7 ans. Il y a énormément de gens qui sont venus s'installer. Ça reste très beau, mais bon, voilà. c'est plus cet endroit sauvage que j'ai connu au tout début.
Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Moi qui n'avais rien demandé, comme s'il fallait tout essayer. Toutes celles qui passent sur la route et toutes les déshabillées.
Qu'est-ce que je fais ici ? Eh ben, qu'est-ce que je fais ici ? Je donne des cours de français. Je donne quelques cours de français pour gagner un peu de sous. Et puis surtout, eh ben, je continue à dessiner. Je partage mon temps entre ma famille et le dessin. Pas toujours facile. C'est un équilibre très, 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 très fragile. Si je donne trop de temps au dessin, ça gronde dans la chaumière. Et si je me dédie trop à mes filles et à ma compagne, je me sens malheureux, je me sens pas bien. Et puis, le bricolage, on est en Argentine, quoi. C'est le royaume du bricolage. On se débrouille avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose. Il y a toujours des trucs à réparer, des trucs à construire, des maisons qui brûlent, des jouets à réparer. Donc ça. Et puis j'aime bien, voilà, je me suis trouvé une âme de bricoleur. C'est toute cette partie manuelle en France, je ne l'aurais pas du tout exploité, mais ici je suis un peu forcé. Je suis un peu l'homme de la maison, alors on compte sur moi pour faire ce genre de choses. La BD, c'est ma passion, c'est ma vie. C'est quelque chose auquel je dédie pas mal de temps, un peu trop selon certains. Il m'a causé des problèmes de santé, notamment problèmes de dos. Mais bon, voilà, je m'organise pour continuer à faire ma passion. Concrètement, c'est un travail constant. Parfois, un peu perdu dans le désert, je ne sais pas trop où je vais, mais je continue. J'essaie de trouver du temps pour ça. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour avoir un résultat intéressant. Et en gros, le secret, oui, c'est alterner entre cette position statique, être assis à une chaise à dessiner plusieurs heures, et puis ne pas oublier d'aller dehors, de marcher, de faire un peu d'exercice, parce que à long terme, c'est pas très bon pour la santé. En Argentine, j'avais commencé une série quand j'habitais à Toulouse, qui s'appelle Patagonie, qui est inspiré d'un voyage au Mexique. Et donc j'ai mis voilà, ce qui m'intéressait à l'époque, à savoir les artistes, les femmes surréalistes, artistes femmes surréalistes qui étaient parties pendant la Seconde Guerre mondiale vivre au Mexique. Et puis il y a toute une histoire aussi avec les plantes chamaniques, et ce genre de choses. Après, je me suis installé en Argentine et j'ai découvert l'histoire du coin. Je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais absolument rien. Et il y a un historien du coin qui m'a mis le grappin dessus et qui m'a dit « Non, mais là, il faut que tu fasses une BD sur la police des frontières. C'est incroyable, cette histoire. » Ouais, il y avait l'histoire de la police des frontières. Et puis après, j'ai découvert qu'il y avait Butch Cassidy et son copain Sundance Kid qui avaient habité à Cholila. Pas très loin d'ici, et puis aussi à El Bolson, il y a Monsieur Sheffield, un vrai cow-boy des États-Unis, Martin Sheffield qui s'est installé. Et puis j'ai lu des bouquins, j'ai lu Sepulveda, j'ai lu Chatwin, et puis j'ai trouvé d'autres livres aussi. Mais j'essaie surtout de trouver mes sources ici, au niveau local. Après, je suis allé aussi interviewer des Viejos Pobladores qui m'ont raconté les histoires des bandits d'avant. Et voilà, j'ai secoué le tout et puis j'ai dessiné ma première BD, Patagonia. Et puis maintenant, il y en a trois. Dans la foulée, j'ai fait une BD sur la Patagonia Rebelde. En gros, ouais, j'ai fait une BD qui se passe tous les 10 ans. Une en 1910 avec Butch Cassidy, une en 1920 avec la Huelga, avec le soulèvement des péons rurales et l'intervention de l'État qui massacre les ouvriers dans la province de Santa Cruz. Mon personnage, c'est un détective, Armando Rossi, qui vit une romance avec une étudiante en anthropologie qui s'appelle Maëlys Kinski. Et donc, il y a tout ce fond historique derrière. La présence des nazis ici en Patagonie, ben oui, il y avait des nazis cachés ici à Lago Puelo, plusieurs, on va pas les citer, et puis à Bariloche. En fait, il y avait des familles allemandes qui étaient là bien avant la guerre et qui, certaines ont pris position pour Adolf Hitler quand il est arrivé au pouvoir. Et après la guerre, eh bien, ou bien ces familles allemandes ont reçu leurs compatriotes avec leurs idéologies nauséabondes. Et voilà, et donc ces nazis ont pu vivre ici tranquillement pendant toutes ces années et ont même eu des enfants. Mais bon, voilà, je ne blâme personne et c'est juste, je voulais parler de ça. Et puis aussi, un truc qui me gêne un peu ici, c'est le manque d'homogénéité, on va dire. Il y a une majorité de population blanche, je trouvais ça un peu étrange et donc ce constat, je l'ai associé à ça. Et sans compter aussi la tradition architecturale et la culture, certains aspects de la culture ont peut-être encore aujourd'hui quelque chose de l'époque nazie. Donc voilà, cette BD elle est sortie l'année dernière, en 2021. Elle a été faite pendant la pandémie. Puis maintenant, ça c'est fini, hein, tout ça. Et là, j'essaye de préparer une BD qui devrait sortir début 2023, sûrement en financement participatif, où je raconte un peu cette expérience. C'est plus autobiographique, l'expérience ici en Argentine, et voilà, le choc culturel et les bonnes rencontres et la vie ici. Et j'écris toujours pour les petits Français, quoi. Pour la famille, pour les amis, et puis voilà. Je pense aux lecteurs français. Et en ce moment, je suis en train aussi de faire un projet en espagnol. C'est un peu difficile, mais voilà, je m'y suis mis parce que j'ai trouvé un scénariste génial qui habite à Rosario, scénariste professionnel, et on est en train de faire un roman graphique qui parle de l'héritage européen, dans l'architecture notamment, dans la ville de Rosario. C'est une ville sur l'architecture de la ville de Rosario qui est exceptionnelle.
Je vivais à l'écart de la place publique, serein, contemplatif, ténébreux, bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire sur mon brin de laurier. Je dormais comme un loir, les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre et que sous peine de choir, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché.
Pour les voyageurs qui voudraient venir ici, eh bien, oui, ça vaut le coup. Il y a énormément de balades à faire dans la montagne. Il y a des refuges en tronc, comme ça, bien rustiques. Et des paysages complètement ahurissants, sauvages. Ici, c'est la Comarca Andina. Donc, c'est El Bolson, Lago Puelo, Cholila. Et toute cette zone a un microclimat plutôt sympa. Ça veut dire que c'est un peu plus doux que le reste. Il y a plus de végétation, c'est moins sec aussi, c'est un petit peu plus humide. Ben oui, il faut découvrir ça, mais en été, parce que souvent, voilà, les voyageurs viennent en été, c'est plus sympa. Il faut faire très, très, très attention au feu, parce que chaque année, on a des incendies et dévastateurs. On n'a pas les moyens ici d'éteindre les incendies, donc ça peut durer plusieurs semaines. Donc, faire très, très attention à ça. Et puis, ouais, il y a des super balades. Notamment, il y a des passages pour aller au Chili, qui est juste à côté, seulement à quelques kilomètres de la frontière avec le Chili. Et puis des lacs, des cascades, des forêts, c'est magnifique. Puis, ouais, il faut bien le dire quand même, les Argentins sont très très sympas et très accueillants. Il y a une philosophie de vie de pas se prendre la tête et de profiter du moment présent. Et puis le mode de vie aussi, ici, forcément connecté avec la nature. Ouais, c'est un truc que j'ai découvert et que j'adore. Merci Radio Nationale pour cette interview. Et puis, je salue tous les francophones au passage. Et puis ma famille en France qui me manque beaucoup. Ciao, ciao.
La calotte chantante, lui le catéchumène, et moi l'énergumène. Il me laisse dire merde, je lui laisse dire amen. En accord avec lui, dois-je écrire dans la presse qu'un soir je l'ai surpris aux genoux de ma maîtresse, chantant la mélopée d'une voix qui susurre, tandis qu'elle lui cherchait des poux dans la tonsure. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Avec qui, ventre bleu, faut-il donc que je couche pour faire parler un peu la déesse aux cent bouches? Faut-il qu'une femme célèbre, une étoile, une star, vienne prendre entre mes bras la place de ma guitare pour exciter le peuple et les folliculaires? Qui est-ce qui veut me prêter sa croupe populaire? Qui est-ce qui veut me laisser faire in naturalibus un petit peu d'alpinisme sur son mont de Vénus? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Sonnerait-elle plus fort ces divines trompettes si, comme tout un chacun, j'étais un peu tapette, si je me déhanchais comme une demoiselle et prenais tout à coup des allures de gazelle? Mais je ne sache pas, ça profite assez drôle de jouer le jeu de l'amour en inversant les rôles, que ça confère à leur gloire une once de plus-value. Le crime pédérastique aujourd'hui ne paie plus. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Après ce tour d'horizon des mille et une recettes qui vous valent à coup sûr les honneurs des gazettes, j'aime mieux m'en tenir à ma première façon.
Et ainsi se termine ce programme en français de RAI, l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.
Je les sors d'ardard, s'il n'en veut pas, je les remets dans ma guitare, refusant d'acquitter la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je m'endors comme un loir. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée.